on ne les remarque pas forcément au premier coup d'œil. D'ailleurs, on dit pudiquement que ces enfants souffrent d'un handicap invisible. En France, un enfant sur 10 est concerné par des troubles de l'apprentissage, du comportement ou du développement. Ces enfants différents ont du mal à s'intégrer, à se faire des copains, à s'adapter à l'école. Et l'école, elle, ne sait pas toujours quoi faire de ces enfants atypiques qui sont en marge du système et de la norme. Alors j'ai voulu en savoir plus sur les difficultés que rencontrent ces parents pour élever et scolariser leurs enfants différents. Comment s'organisent-ils au quotidien ? Au prix de quels sacrifices ? Et avec quelles conséquences pour la vie de famille ? Souvent dans la détresse, impuissant, ces parents se battent pour que leurs enfants puissent vivre comme les autres. Des hommes et des femmes qui ont décidé de dire à leur façon « non » à l'exclusion. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Rémi. La vie de cet enfant a basculé dès la maternelle. Il allait à l'école, mais il restait dans sa bulle, terrifié par le bruit et par les autres élèves. Je suis Olivier Delacroix. Bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Rémi a 13 ans, il est fils unique, il va toujours à l'école bien qu'il souffre de troubles envahissants du développement. On appelle ça les TED.
C'est une TED que j'ai.
Ouais.
J'ai un petit peu de mal à m'accrocher à la vie sociale.
Mmh.
Et j'ai des actions assez répétitives. Et autrement, j'ai des angoisses en plus.
D'accord.
Rémi n'est pas tout à fait un élève comme les autres. Alors que ses camarades obligent leurs parents à rester loin de l'entrée du collège, Rémi entre en classe avec son père. Aujourd'hui, Alain accompagne exceptionnellement son fils pour remplacer l'AVS, l'assistante de vie scolaire, qui est absente. Sans accompagnement, Rémi peut souffrir de crises d'angoisse qui perturbent les cours. Il peut à tout instant avoir besoin d'être rassuré. Pour Marie, sa maman, c'est une présence encore indispensable pour l'équilibre de son fils.
On avait très peur à l'entrée en sixième parce qu'on se disait il va pas s'adapter, c'est pas possible avec la foule, le bruit, plein de profs différents, des horaires différents.
Et alors, ça se passe comment ?
Et puis ça se passe plutôt bien, quoi, parce qu'en fait, on a tout fait pour que ça se passe bien, puisqu'on s'est battu pour qu'il y ait une auxiliaire de vie. Ensuite, tous les profs qu'il a font des efforts, adaptent leurs cours, l'auxiliaire de vie, elle est là, elle fait bien son métier. Et puis nous, on a adapté nos horaires aussi. Il est externe, donc il ne subit pas la pression de la cantine scolaire avec le bruit, la foule. On l'accompagne, quand il prend à 9h, on l'accompagne à 9h le matin. Quand il sort à 11h, on va le chercher à 11h. Quand il recommence à 15h, ou quand il termine à 15h, on va le chercher à 15h. Donc c'est vrai qu'il a une vie... Il a un aménagement confortable, on va dire. Et c'est ce qui lui permet d'évoluer aussi.
Ouais. Et vous avez calqué votre vie sur...
On calque notre vie sur la sienne.
D'accord.
Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on a quand même été relativement bien entouré pour sa scolarisation.
L'auxiliaire de vie étant fondamental dans le fait...
Ça, c'est essentiel.
Qu'il puisse suivre cette scolarité.
Oui.
Sans elle, ce n'est pas possible.
D'accord. Elle est là pour l'aider, pour reformuler ce qu'a dit le professeur. Quand lui est fatigué, parce qu'il lui arrive de se déconcentrer, de se fatiguer, elle est là pour prendre les notes. Elle prend les notes à sa place. Il a besoin d'une présence physique, quoi. En fait, il a vraiment besoin d'être sécurisé. Et à l'école ou au collège, c'est exactement pareil. Il faut qu'il ait cette présence à côté de lui. C'est un lien essentiel pour que ces enfants-là aient une vie sociale, réussissent à progresser, évoluent.
Ouais.
C'est un métier clé qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est important. C'est vital même pour certaines familles.
Les AVS ont révolutionné la vie des enfants souffrant de TED, ces troubles envahissants du développement, ou d'autres handicaps invisibles. Leur présence contribue à les faire accepter par les autres enfants et à mieux les comprendre. Les parents de Rémi étaient effondrés à l'idée qu'ils doivent intégrer un institut spécialisé réservé aux seuls enfants différents. La création de ces postes d'AVS a redonné espoir à bon nombre de parents.
Quand il est rentré en moyenne section de maternelle, les enseignants ont tiré la sonnette d'alarme en nous disant vraiment il y a un problème, il ne s'intègre pas au groupe, il s'allonge dans un coin, il se met dans sa bulle, il se met en retrait, il a peur quand les autres l'approchent, il a peur du bruit, il ne supporte pas de faire de la peinture à doigts. Enfin, les gens se posent des questions, puisqu'il s'allongeait sans arrêt, il se mettait à l'écart. Je pense qu'on nous a pris pour des parents maltraitants, dans un premier temps. Enfin, on nous a soupçonnés, à mon avis, parce qu'on nous demandait si on le faisait coucher tôt, si... voilà. On nous a posé plein de questions.
Somme toute normale.
Somme toute normale, de la part d'un enseignant. Et donc, il y avait plein de petits détails qui faisaient que, qu'on devait se poser la question et qu'il fallait consulter et envisager tout un suivi thérapeutique, des ateliers pour lui apprendre à entrer en contact avec les autres, plus un suivi individuel au niveau psychiatre, enfin, par un pédopsychiatre, par le pédopsychiatre lui-même. Et donc, du coup, on met un mot qui englobe pas mal de troubles, puisque trouble autistique, c'est large. Mais sans pouvoir entrer dans le détail, parce qu'en plus, chez un enfant, on sait que ça va évoluer. Donc ça a été trouble autistique. Ensuite, quand il a été un peu plus grand, c'était trouble psychotique, mais les troubles psychotiques, c'est également des troubles autistiques. Enfin, et là, au jour d'aujourd'hui, on nous dit trouble envahissant du développement. Alors voilà, il n'y a pas de définition précise.
Il reste dans le mot trouble quand même, c'est qu'il y a quelque chose.
Ah, mais je ne dis pas qu'il n'y a rien.
Le mot trouble, mais le déclic qui lui déclenche ces troubles peut être quelconque. Ça peut être une mauvaise pensée ou quelque chose ou un bruit qui l'inquiète, une personne qui l'aperçoit qui l'inquiète. N'importe quelle chose peut le faire basculer dans ce trouble-là.
Quel impact ça a eu sur votre couple si impact il y a eu sur votre couple. Est-ce que c'est quelque chose clairement qui aurait pu vous faire exploser
Oui, puis le fait qu'il ait toutes ses angoisses, il a des obsessions, quoi. Oui. Donc, c'est un enfant qui est capable de vous répéter 10 fois la même chose en une demi-heure. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est usant, quoi. Et tout ça, on prend sur nous. Et des moments, ça se retourne sur la relation de couple. Puisqu'on se focalise sur cet enfant, puisqu'il demande plus d'attention, il demande plus de soins, plus de... Forcément, on délaisse l'autre.
Des fois, on est fatigué, donc à un moment donné, la moindre chose peut éclater.
Et c'est vrai qu'il y a eu une période, je pense que j'étais prête à partir. Hein, à la limite, pour Rémi, je suis restée, je te l'avais dit d'ailleurs. Hein, mais et au contraire, maintenant, avec le recul, j'ai l'impression que notre couple est plus fort et que ça nous a consolidé. Enfin, oui, que ça nous a rapprochés et consolidés. Mais il y a eu une période, effectivement, où on aurait pu se séparer, ça c'est clair.
À l'heure du déjeuner, Rémi rentre à la maison pour retrouver ses parents. Une coupure indispensable pour ce petit garçon, toujours angoissé.
Bon, comment ça s'est passé l'école ce matin?
Bien.
Bien? C'était cours de...
Maths, histoire, géo et sport, c'est tout.
D'accord.
Enfin, moi, je me suis un petit peu énervée. Surtout en sport, je me suis beaucoup énervée. La prof de sport s'est fâchée un petit peu, donc elle s'est fâchée plusieurs fois.
Pourquoi?
Ah, parce que déjà j'étais fatiguée, et j'avais des sautes d'humeur, donc par exemple, je me sentais pas envie de faire du sport et tout ça. Mmh.
J'ai vu ce matin en venant à l'école que t'avais quand même pas mal de copains et de copines.
Ouais.
Pas mal de gens qui venaient te parler.
Ah oui.
Bon. Mais oui.
Et autrement, c'est pas ça.
Et papa, comme AVS, il est comment?
Pas mal.
Pas mal? Il se débrouille bien, il s'en sort bien?
Oui, il s'en sort bien.
D'avoir une AVS avec toi, c'est très important.
Bah oui, c'est des fois quand j'essaie de me rassurer, je lui parle.
J'essaie de me mettre à la place de ses parents. Comment accepter le handicap, la différence de leur enfant, l'incertitude de l'avenir? Le diagnostic de la maladie de Rémi reste flou. Trop de questions sans réponse qui engendrent forcément de la culpabilité. Comme tous les parents, Marie est passée par là. Et elle ne peut pas s'empêcher de se demander si elle a raté quelque chose.
Il y a 6 ans, quel type de questions vous vous posiez?
Déjà, je culpabilisais beaucoup parce que je pensais que j'avais eu une grossesse difficile. Déjà, je ne me sentais pas prête à avoir un enfant. Donc, j'avais beaucoup pris sur moi en me disant « c'est de ma faute, il est comme ça parce qu'il a ressenti intra-utéro, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ». On me disait « mais non, c'est de naissance », mais sans me donner vraiment d'explications valables. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup culpabilisé. Donc c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir savoir quelles en sont les causes, c'est des questionnements qui minent, quoi. Et on a tendance, je pense que la plupart des parents doivent réagir de la même façon, en culpabilisant, en se disant, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Eux me disent, cette naissance, par rapport au fait, je pense qu'il est né avant terme, qu'il a été privé d'oxygène pendant un petit moment. Il avait 3 tours de cordon autour du cou. Enfin, il y a eu plein de choses qui m'ont rassurée quelque part, parce que je me suis dit, effectivement, c'est la nature qui a voulu ça, c'est comme ça, c'est la faute à pas de chance. En gros, c'est ça, hein, c'est le hasard. Et puis, ben, on fait avec et on se dit, ben, c'est comme ça, donc maintenant, il faut faire que ça aille le mieux possible.
Et Rémi, aujourd'hui, va beaucoup mieux. Dans son cocon familial, il se réfugie souvent dans son petit univers virtuel et onirique. Il semble ravi de me le faire découvrir. Ça, c'est Niam.
Ouais, Niam, mais bon, attends, Niam. on le voit pas avec tous ses vêtements. Voilà, là, c'est lui, vraiment.
Là, ah, c'est Niam.
Ouais, là. Alors ça, c'est son épée, la corde qui tient l'épée, le fourreau de l'épée.
Et qui c'est Niam, en fait?
Oh, c'est mon ami imaginaire que j'ai créé.
Un ami imaginaire, ouais, que tu as créé.
Alors, ça, c'est
et pourquoi tu as créé un ami imaginaire?
Ben, pour m'amuser, quand je suis tout seul.
D'accord. Pas parce que tu n'avais pas assez d'amis?
Ouais, parce que, ouais, c'est... On pourrait dire que c'était un petit peu ça, mais j'aimais bien m'amuser tout seul dans ma pensée.
D'accord. Est-ce que tu as l'impression, en fait, quand on dit que tu es un enfant différent, est-ce que tu as quoi de différent par rapport aux autres?
C'est une TED que j'ai.
Ouais.
Donc, en fait, ça veut dire trouble envahissant du développement.
Ouais. Donc, c'est ce qui fait de toi un petit garçon différent des autres?
Bah ouais.
Mm-hmm. Tu le ressens, ça, au quotidien, quand tu vas au collège, par exemple?
Non, parce que je suis pas vraiment, vraiment trop, trop malade.
Bah, toi, tu traduis ça comment, les TED?
Des angoisses.
Ouais. Et ça se traduit comment, ces angoisses?
Oh, des croyances, pas possible. C'est qu'en fait, ça fait comme si mes pensées me forçaient.
D'accord, ok. Tout le monde s'accorde à dire que tu as progressé, que tu as fait plein de progrès, que tu vas mieux.
Bah, pour moi, ça me fait du bien.
Mm-hmm.
Ce qui veut dire que je peux peut-être réussir ma vie.
D'accord, ça veut dire quoi, réussir ta vie?
Bah, avoir un bon métier et tout ça.
Qu'est-ce que tu veux faire? T'as déjà pensé au métier que tu voulais faire?
J'aimerais bien faire infographiste.
Ouais. Bah, ceci dit, avec tout ce que tu dessines, t'es pas mal doué déjà pour faire de l'infographie, non?
Ouais.
Le couple a résisté aux nombreuses difficultés que rencontrent les parents d'enfants différents. Face à leur souffrance, le père et la mère ne réagissent pas toujours de la même manière.
On n'en a jamais énormément parlé au début. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression, moi, que tu voulais pas en entendre parler, que tu déniais, enfin que tu faisais celui qui n'était pas concerné à la limite. Et moi, j'ai eu l'impression de tout prendre sur moi. Mais après, c'était pas ça, quoi. C'était.
J'étais pas à l'éprouver ou à le développer directement oralement ou. J'étais en réflexion.
D'accord.
Je me suis dit, le monde ne s'arrête pas là. C'est une étape, il y a ça qui arrive, donc il faut rebondir, il faut continuer, il faut...
Oui, il faut l'encaisser, il faut le digérer, il faut l'accepter. Puis je crois que là, au bout de quelques années, on a fini par l'accepter, même si des moments, il y a des moments de tension, quand il y a des moments qui sont difficiles. Quand Rémi nous fait ce que j'appelle des crises, moi, quand il est stressé, en souffrance, pas bien... Il y a des moments où on a envie de lui dire, mais c'est bon, quoi. D'ailleurs, quand il est en crise et qu'il nous fait des reproches maintenant à son âge. Donc, ça s'est transformé au fil des années.
Il est pré-ado, hein.
Voilà, ouais. Pré-ado, donc crise d'adolescence.
C'est plutôt rassurant, ceci dit.
Donc, des fois, je lui dis, mais écoute, trouve-toi une famille d'accueil. Ça nous fera des vacances.
C'est vrai, effectivement, il nous dit.
C'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait pas réagi comme ça d'abord, oui. On ne pouvait pas, de toute façon.
On le dit à des moments au porteur.
Où on sent qu'il peut l'accepter.
On ne le dit pas à n'importe quel moment. Il y a des moments où il est vraiment
mal,
pas bien.
Là, on ne pourrait pas lui dire.
Là, il faut vraiment le réconforter, être proche de lui.
Je l'ai bien entendu comme ça, voilà, ne vous inquiétez pas. Comment vous voyez l'avenir pour Rémi?
On essaye de le voir en rose.
Ouais.
C'est vrai que... Mais on ne sait pas, en fait. Moi, je ne sais pas quel sera son avenir.
Voilà, c'est pour ça.
Il faut voir au jour le jour comment il évolue, comment... Donc, tout mettre en œuvre pour qu'il évolue le mieux possible. Mais voilà, quoi.
On n'anticipe pas sur le long terme.
Ce n'est pas pour éviter d'être dans l'angoisse, mais c'est qu'on se dit que, de toute façon, ça peut changer du jour au lendemain. À la fin de l'année scolaire, là, on peut très bien nous dire, terminé pour lui la scolarité. Enfin, il est plus capable de suivre. Donc, voilà, ça peut être ça, tout simplement.
Est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez plus riche aujourd'hui, humainement, plus...
Plus fort, ça c'est sûr. Fort. Enfin, plus riche, oui, d'une certaine façon.
Ouais, plus fort, on est capable de faire front à la vie.
À des situations,
Beaucoup plus complexes.
Difficiles et dures, je difficile, pense. Oui. Donc, quelque part, c'est grâce à Rémi.
Voilà.
Qu'on a pris autant d'assurance, finalement. Donc, quelque part, oui, c'est un, c'est un moteur. Hein.
Si le chemin à parcourir est encore long pour Rémi, il a la chance d'être entouré par des parents soudés qui le soutiennent au quotidien. Je me demande alors comment font les couples séparés pour gérer ce type de situation. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rascle, Clémence Olivier et Kevin Osti. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.